France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano, Joséphine Reynards et Christelle Angers, réalisé par Vivian Lecuivre et la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée à la Syrie, un mois après que Bachar al-Assad eut quitté le pays et que le groupe Ayat Tahrir al-Sham eut pris le pouvoir. Nous avons parlé de l'esquisse de projet politique porté par HTS, aujourd'hui la diaspora, les diasporas syriennes, qui le 8 décembre dernier aussi laissaient exploser leur joie où qu'ils se trouvaient.
On est dans un rêve. On vit une rêve maintenant. On ne croyait jamais qu'on va arriver à ce moment-là. Je pense que tous les Syriens ici, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé.
C'est une nouvelle vie pour la Syrie. C'est la joie, c'est la peur, c'est la vie, c'est l'espoir.
Bien sûr, nous n'oublierons pas que l'Allemagne nous a aidés, qu'elle nous a donné beaucoup. J'ai moi-même étudié la technologie médicale et j'ai terminé mes études. J'ai la nationalité syrienne et je retournerai aussi en Syrie pour reconstruire mon pays.
Je vais en Syrie, mon pays. Je suis venu ici, en Turquie, il y a 9 ans, à cause de la guerre. Tous les gens reviennent en Syrie pour construire l'avenir. Nous sommes prêts pour notre pays.
Chacun avait gardé quelque part en lui l'espoir d'un retour, même s'il leur a fallu d'abord s'arracher à soi, se délester de ce qu'ils ont été, arriver chez les veilleurs du néant, écrivait le poète syrien Omar Youssef Souleyman, exilé en France. Nous avons dit adieu à la guerre, adieu aux portes de la ville, et nous y avons laissé en consigne nos valises chargées de ruines. Alors quand le 8 décembre est annoncée la chute de Bachar al-Assad, après des jours à suivre l'avancée de plusieurs groupes armés vers Damas, la joie a débordé à large flot sur les places des grandes villes ou dans l'intimité des foyers, partout où vivent des Syriens et des Syriens en exil, au Liban, en Jordanie, en Égypte, en Turquie, dans le nord de l'Irak et de nombreux pays d'Europe. Un mois plus tard se pose pour l'instant un dilemme lancinant, l'envie brûlante de rentrer en Syrie pour serrer ses proches dans ses bras, mais la peur de perdre ainsi la possibilité de retourner là où ils ont reconstruit leur vie, ou pour certains d'entre eux, l'empressement à participer sur place à la reconstruction, mais les incertitudes encore nombreuses quant au projet politique de Ayat Tahrir al-Sham en matière de liberté publique, en particulier celle des femmes, de justice indépendante et de sécurité, alors qu'elle part de la diaspora syrienne compte rentrer dans son pays d'origine et quel rôle compte-t-elle y jouer ? Bonjour Leïla Vignal.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, professeure des universités et directrice du département de géographie à l'École normale supérieure, membre par ailleurs du centre Maurice Albvax. Bonjour Léo Fourne.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes sociologue, post-doctorant à l'IRD, membre du CEPED et du projet Live Art, c'est le sigle en anglais de conséquences biographiques de l'engagement révolutionnaire arabe. C'est un projet financé par le Conseil européen de la recherche et vous êtes spécialiste des mobilisations syriennes en exil. Alors d'abord à l'un et à l'autre qui faites beaucoup de recherches de terrain, comme il est difficile d'avoir une idée très précise de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, de cette diaspora syrienne qui est en train ou pas de rentrer, surtout de se poser la question de ce qu'elle fera dans les jours et les semaines qui viennent, peut-être les mois qui viennent, sur ceux et celles que vous connaissez, que vous avez interrogés parfois à de nombreuses reprises. Est-ce que beaucoup vous ont dit déjà être rentrés, Leïla Vignal ?
Écoutez, moi, les Syriens avec lesquels je travaille dans la vallée de la Beka depuis quelques années, une partie de ces familles avec lesquelles je travaille et qui étaient établies dans la vallée de la Beka depuis 2012 pour la majorité d'entre elles, une partie est déjà rentrée, mais un peu avant la chute du régime de Bachar el-Assad, dès novembre dernier, puisque, comme on s'en souvient, le Liban a été l'objet de ces campagnes de bombardement, de cette guerre menée par Israël sur le Hezbollah. Et ces familles se sont rentrées en partie en Syrie à ce moment-là, c'est-à-dire que les hommes sont restés au Liban pour ne pas risquer d'être intégrés de force dans l'armée, qui était une des raisons principales pour lesquelles aussi les hommes restaient hors de la Syrie. Mais les femmes, les enfants et les personnes âgées étaient déjà rentrées à ce moment-là de façon temporaire pour fuir les bombardements israéliens. Et donc aujourd'hui, ces familles, elles sont encore séparées entre le Liban et la Syrie et elles envisagent pour le moment de rester dans cette modalité un peu double entre les deux pays.
La situation de la diaspora syrienne, la diaspora de guerre syrienne au Liban est assez particulière. Vous, Léo Fourne, sur tous les terrains que vous connaissez, est-ce que beaucoup vous ont dit déjà être rentrés ?
Alors oui, j'ai pu observer le retour de différentes personnes que je connais, d'amis, qui sont rentrés notamment de France, plutôt pour des retours temporaires, et qui ont pu rentrer car elles avaient la nationalité française. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les personnes qui demeurent sous le statut de réfugié, qui elles ne peuvent pas rentrer pour l'instant en Syrie. Donc se pose la question d'une éventuelle dérogation qui permettrait exceptionnellement à ces personnes disposant du statut de réfugié pour les laisser rentrer en Syrie temporairement et revenir en France ensuite.
Oui, parce que pour l'instant, quand on obtient le statut de réfugié, on le perd ce statut. Si on retourne dans le pays qu'on a fui, selon la convention de 1951, on va avoir l'occasion d'en parler pas mal, puisque des voix s'élèvent pour que des allers-retours soient permis pendant un temps, pour permettre à chacun de prendre une décision de manière éclairée, selon les mots du chercheur Kamel Doraï du laboratoire Migrinter dans Libération. Donc rentrer d'abord pour un court séjour, c'est ce qui paraît le plus évident pour beaucoup, voir sa famille, enterrer ses morts aussi, prendre conscience de ce qu'est devenu le pays. Dans quelle proportion, Leïla Vignal, la diaspora syrienne est-elle une diaspora de guerre produite par la guerre ?
C'est une diaspora. Avant la guerre, il y avait finalement très peu de Syriens qui vivaient à l'étranger, un petit peu dans le Golfe, un petit peu en Europe, pour des raisons de travail, avec des enracinements plus ou moins anciens. Et la communauté en exil syrienne, qui est d'environ 8 millions de personnes, ce qui représente donc plus du tiers de la population syrienne de 2011, d'avant la révolution, cette communauté syrienne, elle a véritablement été produite par la guerre. C'est-à-dire que le régime de Bachar el-Assad a déployé la répression que l'on sait qui a notamment visé les populations civiles avec cet instrument des campagnes de bombardement et de destruction des infrastructures civiles qui a véritablement poussé hors de chez elle la population syrienne. Hors de chez elle, en Syrie, mais aussi à l'étranger. Donc, il faut bien comprendre le déploiement de cette, la création de cette diaspora comme une diaspora de guerre liée à des stratégies de répression et de guerre visant à chasser des populations jugées non désirables par le régime syrien.
Et c'est bien parce qu'une grande partie de la Syrie a été détruite que le régime a bombardé tous les quartiers d'opposition dans plusieurs villes et bombardé toutes les maisons de ces personnes, Leïla Vignal, dont vous disiez qu'elles étaient considérées comme indésirables par le régime, que beaucoup se demandent dans quelle Syrie ils vont rentrer, s'ils peuvent accéder à quelque chose qui ressemblerait à leur ancienne maison. Et pour ceux dont la maison n'a pas été détruite, encore faut-il qu'elle soit toujours à eux. Léo Fourne, c'est une question que le régime al-Assad avait pensé régler il y a quelques années.
Oui, le régime avait décidé d'exproprier une partie des personnes qui étaient parties du pays, notamment dans des quartiers informels ou lorsque les droits de propriété n'étaient pas toujours préservés. Lors de l'exil, les personnes qui sont parties ont perdu souvent leurs documents administratifs. Et ce qui pose un problème lors du retour pour réclamer à nouveau leur bien. Le régime a toujours déclaré qu'il ne souhaitait pas le retour des réfugiés et, comme le disait Leïla Vignal, que ces personnes étaient clairement indésirables dans la Syrie de Bachar el-Assad.
C'était la loi numéro 10 pour exproprier les gens qui étaient partis. Je crois que c'est en 2018, quelque chose comme ça. En tout cas, pas tout de suite au début de la guerre. Est-ce que HTS s'est déjà prononcé sur cette question, d'ailleurs, à Ayat Tahrir al-Sham, Léo Fourne, sur le retour chez eux de ceux dont la maison a été accaparée par d'autres entre-temps ?
Alors, je ne peux pas vous répondre sur cette question précisément, mais sur le retour des réfugiés, oui, depuis la reprise du pouvoir par HTS, les déclarations étaient très favorables au retour des réfugiés, appelés à revenir pour la reconstruction du pays et la reconstruction d'une nouvelle Syrie.
Le Premier ministre de transition, Mohamed El-Bachir, a multiplié les déclarations en ce sens. Revenez, nous devons reconstruire, renaître. Nous avons besoin de l'aide de tous, Leïla Vignal. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, je voulais ajouter sur cette question, effectivement, de la dépossession des Syriens de leur maison, cette question des titres de propriété qui avait été mise en place par le régime de Bachar el-Assad, notamment par cet instrument de la loi 10 de 2018, comme vous le dites, portait aussi sur des quartiers informels, qui sont des quartiers où, par définition, les titres de propriété n'existaient pas avant la guerre. Donc, il y a tout un travail également dans la reconstruction de la Syrie de reconstruction de titres de propriété, y compris dans des quartiers où la propriété n'était pas garantie par des titres de propriété légaux formellement enregistrés. Et par ailleurs, cette question de la propriété, qui est vraiment cruciale pour le retour des réfugiés, greffe également. Excusez-moi,
je vous en prie. Sur le titre de la propriété, se greffe d'autres questions parce que on est dans un pays, la Syrie, totalement détruit, enfin très largement détruit, avec des infrastructures délabrées, des services publics qui sont en partie dysfonctionnels, les écoles, les hôpitaux. Donc tout ça, ça entre en ligne de compte pour cette diaspora syrienne qui se pose aujourd'hui la question de savoir si elle pourra rentrer durablement.
Les infrastructures civiles sont en grande partie détruites. On estimait, tout ça, ce sont des estimations. Donc, il y a un travail, il y a un bilan absolument énorme à faire sur, effectivement, l'état du pays. Mais on estimait, depuis l'extérieur, qu'il y avait environ 50% des écoles qui étaient plus fonctionnelles. Le système de santé est extrêmement abîmé également. Les infrastructures économiques sont quasiment à l'arrêt. C'est un pays qui est plutôt sur un mode d'économie de survie, qui était passé en économie de guerre. Donc pour les réfugiés, évidemment, quelle que soit leur situation dans le pays de départ, la question se pose de rentrer dans quel pays, comment assurer sa survie dans ce pays, évidemment.
D'autant que beaucoup avaient, pour ceux qui ont construit une vie, alors en Égypte, dans des pays européens, beaucoup avaient construit une vie, avec pour certains acheté un logement, les enfants scolarisés aussi dans le pays d'accueil. C'est vrai qu'à cet égard, les diasporas syriennes sont très diverses selon leurs ressources de départ et selon qu'ils se sont installés en Turquie, en Égypte, en Europe ou au Liban.
Nous voulons retourner en Syrie le plus vite possible, que quelqu'un nous tende la main. Nous n'avons pas les moyens de reconstruire notre vie là-bas. Notre maison a disparu, nos terres aussi. Il ne nous reste rien, absolument rien. Nous sommes réduits à néant.
Personne n'aurait imaginé qu'un jour nous pourrions envisager un retour en Syrie. J'avais totalement perdu espoir. Ici, je ne suis pas vraiment heureuse et pour couronner le tout, nous subissons des menaces d'expulsion. Grâce à Dieu, nous commençons enfin à rêver d'un retour dans notre pays.
Des témoignages recueillis par France 24 dans un camp de réfugiés dans la vallée de la Beka que vous connaissez très bien, Leïla Vignal, ces personnes qui aujourd'hui vraiment espèrent un retour et pour qui ça se dessine de plus en plus. Avec quels moyens aujourd'hui rentrer au Liban pour ceux qui avaient déjà amorcé ce retour, comme vous le disiez tout à l'heure quand Israël a bombardé une partie du Liban? Avec quelles ressources sont-ils partis? Comment sont-ils déjà peut-être en train de reconstruire quelque chose? Ont-ils de quoi ne serait-ce que racheter du ciment?
Vraiment, c'est des questions majeures qui se posent. Certaines familles n'ont pas les moyens, puisque l'exil, moi, c'est ce que j'ai pu voir de très près avec les familles avec lesquelles j'ai travaillé. Les gens sont partis avec leurs économies en exil, et leurs économies ont été utilisées pour s'installer au Liban, pour survivre au Liban. Et évidemment, les gens ensuite ont bénéficié à la fois de l'aide humanitaire qui était fournie par la communauté internationale au Liban, mais les Syriens et les Syriennes ont travaillé, mais n'ont pas pu accumuler d'économies, de ressources, puisque les conditions de vie au Liban sont très difficiles et ont été rendues encore plus difficiles depuis 2020 suite à la crise économique. Donc là, pour le moment, ce qu'on voit, c'est beaucoup de gens depuis les pays alentours, puisque les Syriens sont principalement réfugiés dans les pays alentours, qui viennent pour faire effectivement des évaluations de la situation chez eux, quand ils peuvent rentrer chez eux. Alors le HCR hier a fait une estimation de qu'il y aurait eu environ 115 000 Syriens qui sont de retour depuis un mois, ne pouvant vraiment distinguer entre ceux qui reviennent de façon temporaire pour faire voilà un état des lieux et ceux qui reviennent s'installer, puisque la question effectivement des moyens économiques pour reconstruire, mais aussi voilà des infrastructures, des matériaux nécessaires à la reconstruction. Si je peux rajouter juste un mot là-dessus, c'est ici que le rôle de cette diaspora de réfugiés va être très important, parce qu'en attendant qu'une aide internationale à la reconstruction se mette en place, si elle se met en place, mais il y a pour le moment de bonnes perspectives pour peut-être un engagement des pays arabes et de la communauté internationale pour cette reconstruction majeure. Mais en attendant, la reconstruction, elle va se faire grâce au financement de la diaspora en très grande partie. Ça va être une reconstruction par le bas, grâce au transfert de financiers de la diaspora et aussi à toutes ces compétences que la diaspora a développées dans ces différents pays d'exil.
Vous parliez aussi de ces sortes de visites d'exploration de la situation, ces Syriens qui rentrent en Syrie sans savoir véritablement s'ils pourront ou voudront s'y installer plus durablement, mais simplement évaluer la possibilité pour eux de le faire. Et pour cela, pour que certains ne soient pas inquiétés, des pays d'accueil ont donné des garanties. Les autorités turques, par exemple, ont promis que pour chaque famille syrienne installée en Turquie, un membre aurait le droit de se rendre en Syrie trois fois d'ici au 1er juillet prochain pour préparer leur réinstallation sans que leur retour en Turquie ne pose problème. Léo Fourne, de tous les pays d'accueil, lesquels garantissent comme ça à ceux qui repartent en Syrie en exploration de les accueillir de nouveau si la stabilité et la sécurité ne sont pas suffisantes selon ces réfugiés pour repartir vraiment de zéro en Syrie?
Alors, à ma connaissance, pour l'instant, aucun, à part la Turquie que vous venez de mentionner. Il me semble que pour le Liban, par exemple, tout retour au Liban est impossible, à part lorsqu'on obtient un visa, mais qui coûte relativement cher et qui est assez difficile à obtenir. En Europe, le statut de réfugié interdit tout retour en Syrie. Donc ces retours, comme je le disais tout à l'heure, sont uniquement possibles pour les personnes qui disposent des nationalités des pays européens.
Alors au nom de quoi tout retour est interdit ?
Alors c'est dans le droit d'asile, c'est une clause qui, la clause principale d'ailleurs presque, qui stipule que tout retour dans son pays d'origine est interdit, puisque c'est bien ça qui justifie l'obtention du droit d'asile.
Tout comme le statut de réfugié qui s'efface, entre guillemets, si l'état de droit est rétabli dans le pays de départ ou le pays d'origine, et si les réfugiés émettent le souhait volontaire d'y repartir, et c'est aussi pour ça que la Turquie se prémunis, entre guillemets, d'éventuels retours de milliers de personnes néanmoins, puisqu'ils font signer une feuille de retour volontaire à ceux qui sont en route vers Alep, Idlib ou Latakia à la frontière. Leïla Vignal, sur les situations sont en Europe aussi très différentes. En Allemagne, par exemple, 30% ont un titre de nationalité. Est-ce que pour certains, c'est plus facile que pour d'autres de faire ces allers-retours et un peu exploratoires en ce moment?
Absolument. C'est ce que vient d'expliquer Léo Fourne, c'est-à-dire que pour le moment, seuls ceux et celles qui ont la nationalité, une autre nationalité, peuvent retourner en Syrie, puisque effectivement la protection qui est accordée par un État à une personne qui a en besoin de protection, cette protection tombe si la personne retourne volontairement dans son pays, ce qui donc de fait atteste le fait que cette personne n'est plus menacée et donc n'a plus besoin de la protection d'un État tiers. Donc en Allemagne, on estime qu'effectivement on en est à 30 voire 40% de taux de naturalisation. Je n'ai pas le chiffre de naturalisation en France, mais il est également très élevé. Donc les Syriens et les Syriennes, en fait, réfugiés en Europe, sont dans une position globalement très différente de celles et ceux qui sont au Moyen-Orient, puisque en Europe, assez rapidement, les personnes protégées au titre du droit d'asile peuvent rentrer dans un processus de naturalisation, et ce d'autant plus que ces personnes, ces familles y élèvent leurs enfants, que leurs enfants sont scolarisés. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés aussi en exil dans nos pays, qui sont donc des concitoyens. Et donc cette situation, la situation de ces personnes par rapport au retour se pose dans des termes effectivement différents sur le plan juridique que ceux et celles qui sont au Moyen-Orient et qui ne disposent pas d'une protection internationale, puisque les pays de la région régions ne sont pas signataires de la Convention de Genève qui protège les réfugiés, à part la Turquie.
En Europe, donc les inquiétudes sont diverses. Certains sont assez tranquilles pour faire ces allers-retours-là, d'autres beaucoup plus inquiets. En Autriche, par exemple, où des milliers de réfugiés syriens ont célébré la chute de Bachar al-Assad sur le grand boulevard qui entoure le centre historique de Vienne, une annonce du ministre de l'Intérieur autrichien, deux jours plus tard, a quelque peu cassé cet élan de fête.
Ce qui se prépare actuellement, c'est qu'il y aura un ordre de priorité. La priorité sera donnée à ceux qui sont devenus des criminels, à ceux qui ne veulent pas s'adapter aux valeurs culturelles de l'Europe ou à ceux qui ne veulent pas travailler et ne vivent donc que des prestations sociales. Ces personnes sont clairement la priorité de ce programme.
Le ministre de l'Intérieur autrichien, le 10 décembre 2024, qui annonce donc un programme de rapatriement et d'expulsion. Léo Fournes, est-ce que l'Autriche ou l'extrême droite, qui a d'ailleurs été chargée hier de former un nouveau gouvernement en Autriche, en a légalement le droit d'expulser des réfugiés syriens sur des critères que le gouvernement définirait ?
Alors, je ne connais pas spécifiquement la situation de l'Autriche, mais il me semble que le droit d'asile à l'échelle européenne doit limiter ce type de retour forcé.
Le Danemark l'a déjà fait, par exemple,
Il a commencé à le faire il y a quelques années, oui.
Il en a renvoyé beaucoup en Syrie, on sait.
Je crois qu'on peut-être quelques centaines, quelques milliers, je ne sais pas exactement, mais reste la crainte que ce type de mesure soit appliqué dans tous les pays. Et dès le lendemain de la reprise du pouvoir, de la chute du régime, tous les pays européens, dont la France, ont annoncé une suspension de l'instruction des demandes d'asile en cours provenant de Syrie.
Oui, c'est pas la seule d'ailleurs. Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique.
Oui, ça ne signifie pas la fin de la protection des réfugiés, mais ça laisse imaginer que cette protection ne sera pas aussi longue qu'on pouvait l'espérer.
Donc plusieurs pays.
Voilà, les craintes des réfugiés sont de plus en plus fortes quant à la possibilité de retour forcé. Mmh. Et d'ailleurs, la ministre de l'Intérieur allemande a déclaré très récemment que ce type de retour serait aussi envisageable pour une partie des Syriens qui bénéficient de la protection subsidiaire, c'est-à-dire d'une protection qui a été accordée en fonction de la situation guerrière en Syrie. L'instabilité est normalement une cause qui justifie l'octroi du droit d'asile et ici elle est utilisée comme excuse pour suspendre ces demandes d'asile.
La France, par exemple, entre autres pays européens, a suspendu l'examen des demandes d'asile en provenance de Syrie, 700 dossiers en l'occurrence. Leïla Vignal, vous avez pu, dans le cadre de vos recherches, vous entretenir souvent avec des agents de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur quels critères pourraient être réexaminés le droit d'asile des Syriens ?
Alors pour essayer d'être clair et synthétique, il faut évidemment comprendre que dans le contexte politique européen, il y a certains partis politiques qui utilisent la question des réfugiés syriens pour mobiliser leurs électorats. Donc on est aussi dans ce contexte préélectoral, notamment en Allemagne, qui favorise ce genre de déclaration un peu qui instrumentalise la question des réfugiés. Ensuite, les réfugiés syriens, ils sont réfugiés au titre, selon un double dispositif. D'une part, ils sont protégés au titre de l'article 1 de la Convention de Genève de 1951, qui en fait protège toute personne qui craint avec raison d'être, je cite, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Et cette protection au titre de l'article 1, elle va être maintenue, puisque la France et les pays européens sont signataires de la Convention, et donc appliquent ce droit à la protection pour toute personne qui peut s'en prévaloir et faire preuve de cela. Donc par exemple, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a ces 700 dossiers donc il y a eu 3500 dossiers déposés par des Syriens et des Syriennes en France cette année, il y en a 700 qui sont suspendus. C'est juste que l'OFPRA dit on a besoin d'un temps pour réexaminer les critères de cet article 1. C'est-à-dire que, pour être très clair, lorsqu'on se présentait en France en disant « je suis un opposant politique à Bachar el-Assad » jusqu'au 8 décembre 2024, évidemment, cela permettait d'obtenir la protection. Aujourd'hui, Bachar el-Assad n'est plus là. Donc voilà, il y a une réévaluation de la situation, des critères qui peuvent donner lieu à la protection, à cette protection au titre de l'article 1 de la Convention. Mmh. Et puis, par ailleurs, les Syriens et les Syriennes, la majorité d'entre eux, sont protégés au titre de la protection temporaire et qui, en fait, protège toute personne qui vient d'un pays où la vie de cette personne est menacée, et notamment du fait d'un conflit. Alors, l'OFPRA a expliqué tout de suite, a déclaré tout de suite, après cette déclaration un peu intempestive du ministère de l'Intérieur, qui n'a pas la compétence pour faire ce genre de déclaration, c'est l'OFPRA, qui est un organisme indépendant qui accorde la protection, qui a précisé que donc on suspend temporairement l'examen des dossiers juste pour réévaluer les critères, mais que par ailleurs, on estime, en ligne avec les recommandations du HCR qui s'est prononcé tout de suite, le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, qui a bien indiqué que pour le moment, il était trop tôt pour établir le fait que la Syrie est un pays sûr qui permet le retour sûr de ses citoyens et qu'il est donc tout à fait justifié de maintenir cette protection temporaire et les droits de résidence qui y sont accolés.
Puisque si les risques de protection, je cite le HCR, si les risques de protection liés à la persécution par l'ancien gouvernement ont diminué, d'autres risques pour certaines catégories de population particulièrement vulnérables peuvent persister ou émerger. On sait combien des groupes armés sont encore actifs dans le nord de la Syrie, notamment ces milices armées financées par la Turquie, dans le sud aussi des milices pro-Bachar al-Assad qui par ailleurs persistent ou se reconstituent. Donc la situation n'est pas à stabiliser en Syrie. Léo Fourne, avoir été ou pas un opposant à Bachar al-Assad aujourd'hui n'est plus un critère pour se décider ou non à rentrer. Tous ceux qui étaient vraiment dans l'opposition syrienne n'ont plus cette crainte de rentrer, ne seront pas poursuivis par un régime qui est tombé. Néanmoins, tous ne sont pas convaincus par le projet que porte Ayad Tahrir al-Sham. Léo Fourne, vous avez travaillé alors sur l'opposition syrienne en exil, mais aussi sur plus largement tous ceux qui se sont impliqués dans la vie syrienne à distance, que ce soit par l'humanitaire, par des biais divers. Est-ce que ça compte aujourd'hui cette question de savoir le projet que porte Ayad Tahrir al-Sham dans les entretiens que vous avez pu avoir avec tous ceux que vous suivez jusqu'à présent? Que vous en disent-ils? Est-ce que pour l'instant le principal c'est que Bachar al-Assad soit parti, ou vraiment il y a une attente et une inquiétude?
Alors je répondrai oui, les deux. Il y a une énorme joie relative au départ de Bachar al-Assad. Et comme je disais tout à l'heure en introduction, une partie des opposants sont déjà rentrés. Par exemple, un opposant assez fameux qui s'appelle Yassine El-Hajj Saleh, qui était un intellectuel qui était réfugié en Allemagne, à Berlin.
On en parlera avec Franck Mermier tout à l'heure.
Ah oui, on en parlera tout à l'heure avec Franck Mermier. Est actuellement en Syrie, et une partie des personnes que j'ai rencontrées lors de mes enquêtes de terrain sont également actuellement en Syrie. Et on peut observer que des organisations qui avaient été formées depuis l'exil, des organisations de la société civile, par exemple aujourd'hui un mouvement qui s'appelle le Mouvement politique des femmes syriennes, qui a été créé lors des dernières années depuis la diaspora entre des membres en Syrie, en Turquie et dans les différents pays d'Europe, tient une réunion, une conférence cet après-midi à Damas. Donc ce type de mouvement de la société civile plutôt laïque, disons, et démocrate, et effectivement peu enclin à accorder toute sa confiance au nouveau pouvoir de HTS. Pour autant, le retour est possible et le dialogue est ouvert. Pour le moment, le dialogue est ouvert entre ces différents groupes politiques syriens et le groupe au pouvoir. Un autre exemple, celui de Madaniya, qui est une espèce de grande plateforme qui a été formée très récemment en Europe et qui regroupe des dizaines d'associations et d'organisations syriennes en exil. Le leader de cette fondation, qui s'appelle Ayman Asfari, qui est un homme d'affaires syro-britannique, s'est entretenu avec Ahmed El-Sharaa à Damas très récemment. Donc, une crainte, certes, mais un dialogue malgré tout entre les différentes parties de l'opposition syrienne, de la plus islamiste, disons, à la plus laïque, ou en tout cas la plus la plus opposée à l'islamisme.
Et tous, qu'ils aient été ou pas engagés dans une opposition syrienne en exil, disent qu'ils veulent participer à la reconstruction de la Syrie de demain, notamment ce jeune Syrien qui vit en France.
Dans les facteurs qui rentrent en compte, c'est la participation à un nouveau projet, c'est un nouveau pays qui va se développer. Enfin, ça, c'est sûr, à certains, dans le futur, il y aura un développement d'un nouveau pays. Donc, le fait d'être partenaire, le fait d'être actif, de participer à cette construction, c'est une des choses qui peut pousser à rentrer au plus vite.
Un témoignage recueilli par France 24, Leïla Vignal, que compte apporter la diaspora syrienne à la Syrie de demain ?
C'est ce que disait Léo Fourne reflète vraiment un état d'esprit que l'on retrouve là dans tous les témoignages et dans toutes les mobilisations que l'on voit en cours. C'est-à-dire que la société syrienne en exil est restée en grande partie connectée à la Syrie de l'intérieur dans les institutions qu'elle a créées, ces ONG. Qui ont travaillé sur la question, par exemple, des droits des femmes, de la promotion de l'égalité, comme une ONG qui s'appelle Women Now, qui a été fondée par l'écrivaine Samar Yazbek, qui travaillait à la fois avec des réfugiés syriennes, et qui travaille toujours à la fois avec des réfugiés syriennes au Liban, mais qui avait aussi établi des centres similaires en Syrie, et notamment dans la région d'Idlib. Donc on voit toutes ces structures de la société syrienne dans un sens plus large que seulement l'opposition politique. La société syrienne, dans ce redéploiement, cette transformation majeure qui a été la sienne du fait de cette guerre, a continué à créer de nouvelles institutions à l'extérieur de la Syrie, parce que finalement, et je crois que Franck Mermier va pouvoir expliquer ça de façon très précise par rapport à la scène culturelle, mais le fait de se retrouver en exil, il ne s'agit pas du tout de dire que ça a été une histoire désirable pour le coup, mais a permis aussi la création d'une scène sociale, d'un tissu associatif, de mobilisation, de scènes intellectuelles qui n'était pas possible de développer dans la Syrie de Bachar el-Assad. Et ces associations, elles ont travaillé avec l'intérieur de la Syrie. Et en Syrie elle-même, la société civile n'est pas restée lettre morte pendant ces 13 années de répression. Évidemment, à partir de 2014-2015, l'ampleur de la répression a tué, ou en tout cas a fait diminuer la possibilité d'action de cette société civile sur le terrain, puisque les menaces étaient fortes. Mais jusqu'à 2014-2015, il y a eu une création et une très importante de structures de la société civile dans tous les domaines, pour justement la gestion quotidienne des zones qui étaient tenues par les oppositions, pour la fourniture de services sanitaires, de services scolaires. Et puis également, c'est un exemple aussi très intéressant, et là il va y avoir des coutures intéressantes à faire entre l'intérieur et l'extérieur pour tout ce qui est de la documentation des crimes de guerre, puisque les Syriens et les Syriennes en Syrie se sont mobilisés au sein de structures pour documenter les crimes de guerre perpétrés par toutes les forces armées qui étaient actives en Syrie, en lien avec les Syriens de la diaspora. Et les Syriens de la diaspora ont porté ces crimes de guerre dans les tribunaux européens, notamment. Il y a déjà eu plusieurs procès qui ont eu lieu dans les cours européennes portées par cette diaspora syrienne, en connexion avec des activistes syriens et syriennes à l'intérieur du pays. Donc voilà, il y a ces liens qui existent entre l'intérieur et l'extérieur qui vont pouvoir se recoudre la diaspora va pouvoir rentrer, apporter ses compétences, compléter les compétences qui existent déjà aussi en Syrie. On entendait le témoignage de ce jeune homme en Allemagne qui a étudié la technologie médicale, voilà, qui veut revenir apporter ses compétences. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une partie de cette diaspora va probablement rester dans les pays dans lesquels elle vit, puisqu'elle est établie, elle y crée des ressources qui vont pouvoir d'ailleurs contribuer à la reconstruction de la Syrie, hein, avec des transferts financiers. Mais ce sont aussi des ancrages économiques, institutionnels, politiques dans ces sociétés d'accueil qui vont servir de ressources pour ancrer cette Syrie de demain au monde et lui faire bénéficier aussi des acquis que représentent ces ancrages diasporiques dans de multiples sociétés du monde.
Vous parliez, Léo Fourne, de l'intellectuel Yassine Alhadj Saleh qui est rentré en Syrie aussi là récemment pour que justice soit faite sur la disparition de sa femme et de plusieurs de ses proches intellectuels syriens sous le régime de Bachar al-Assad. Il y a beaucoup aussi de la part de ceux qui rentrent aujourd'hui ce désir de justice, l'objectif de justice, la question de la justice sera primordiale portée par cette diaspora.
Oui, tout à fait. La question de la justice est depuis plusieurs années vraiment la question centrale au sein des mobilisations syriennes à l'étranger. Leïla Vignal a mentionné les procès qui ont eu lieu en Allemagne et plus récemment en France. D'autres procédures sont en cours. Ce qui me semble important de préciser pour cette question de la justice, c'est le rôle tenu par les victimes et par les familles de victimes. On peut mentionner ici le rôle notamment de la Charte de la vérité et de la justice, qui est une plateforme qui regroupe plusieurs organisations de familles de personnes disparues et détenues qui vivent entre la Syrie et les pays d'exil. Et c'est la mobilisation de cette charte a mené assez récemment, en 2023, à la création par l'ONU d'une institution indépendante pour les personnes disparues en Syrie, donc d'un nouvel organisme onusien dédié à cette question-là. Comme vous l'avez mentionné, c'est une des raisons pour lesquelles les personnes exilées en Europe rentrent en Syrie pour essayer d'obtenir des preuves ou des informations sur le sort des personnes disparues. Cette quête de preuves, cette quête d'information n'avait jamais cessé, mais elle est désormais facilitée par l'ouverture des prisons, par l'ouverture des documents administratifs qui, malheureusement, ont été éparpillés, voire détruits, ce qui rend cette quête bien plus difficile. Et ça nous amène à une question peut-être encore plus délicate, qui est celle des fosses communes. Fosses communes souvent secrètes, dans lesquelles les personnes enterrées ne sont pas du tout identifiées, donc ce qui rend difficile... La reconnaissance par leur famille et donc évidemment leur deuil.
Et donc toute cette diaspora syrienne qui va venir à l'aide des Syriens restés en Syrie pour établir cette justice, pour établir la vérité, ça prendra sans doute de très nombreuses années. La société syrienne qui voit arriver cette diaspora, laquelle s'est frottée à de nombreuses expériences différentes, beaucoup se sont formés, ont étudié dans différents domaines, ont appris des langues et pèseront sur l'émergence de nouvelles institutions. Parmi les points d'appui, comme on dit, pour reconstruire la Syrie, il y a tous les projets syriens menés toutes ces années à l'extérieur, projets notamment culturels et littéraires. On en parle dans le Focus avec Franck Mermier, juste après ce groupe syrien de la diaspora installé aujourd'hui à Berlin, Kebez Dole. Le groupe syrien Kebes Dole, ça veut dire le pain du gouvernement. Ces musiciens ont fui la Syrie, ils vivent aujourd'hui à Berlin, mais c'est toute une histoire qui prendrait du temps à raconter et qu'on aimerait leur entendre raconter. C'est qu'ils sont arrivés un jour sur les côtes de l'île grecque de Lesbos, car c'est en bateau qu'ils ont fui la Syrie. Et au lieu de se diriger vers un camp de réfugiés ou le terminal d'un ferry, eh bien ce groupe a commencé à discuter avec les touristes qui se prélassaient sur la plage devant l'hôtel Aphrodite, raconte-t-il. On s'est dit bonjour, on avait des visages heureux qui s'amusaient. Habituellement, les touristes voient des gens effrayés, des visages tristes, des enfants qui débarquent. C'était surréaliste pour nous et pour eux, alors on voulait rendre ça encore plus surréaliste et on a sorti les copies de nos CD de nos sacs et on a commencé à les distribuer sur la plage. La diaspora syrienne et ce dilemme, rentrer ou pas dans un pays où tout est à reconstruire, on en parle avec nos invités Leïla Vignal et Léo Fourne. Depuis leur exil, beaucoup se sont impliqués dans l'humanitaire, l'opposition ou simplement pour maintenir un débat intellectuel syrien et une littérature syrienne, c'est le cas de la revue Al-Jumouria.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Al-Jumouria, ça veut dire la République en français. La revue est devenue une véritable plateforme pour de nouvelles écritures syriennes. Bonjour Franck Mermier.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS et membre de l'IRIS. D'abord, qui décide de créer la revue Al-Jumouria en mars 2012, donc un an après le début de la révolution syrienne?
Alors cette revue a été créée dans la clandestinité en 2012, donc notamment par l'intellectuel syrien Yassine Al-Hajj Saleh, dont on parlait tout à l'heure, qui a passé 16 ans en prison à l'époque de Hafez al-Assad. Il était membre du Parti communiste bureau politique, c'est-à-dire un parti communiste dissident qui n'était pas représenté au sein du régime. Et donc, Yassine Al-Hajj Saleh vivait dans la clandestinité avec un groupe de camarades, d'amis, qui n'étaient pas obligatoirement d'ailleurs du Parti communiste, parce que lui-même avait rompu avec ce parti. On crée une revue pour justement contrer la propagande officielle, pour montrer ce qui se passait en Syrie, pour essayer de trouver un autre narratif sur les événements syriens. Et ce collectif était évidemment un groupe d'opposants pro-démocratie et aussi qui sont plutôt orientés dans le versant progressiste de l'opposition syrienne, c'est-à-dire plutôt le versant laïque et démocrate, et qui justement a ensuite essaimé à l'extérieur de la Syrie du fait justement de l'accroissement de la répression en Syrie même.
Parce que Yassine Al-Hajj Saleh, il est encore en Syrie quand écrit la revue. Il y vit clandestinement jusqu'en octobre 2013. Ensuite, il part au Liban, je crois, à Beyrouth, c'est ça? Enfin, en tout cas, il y a beaucoup des contributeurs de la revue qui sont à Beyrouth à ce moment-là.
Alors, effectivement, il y a eu au départ plusieurs revues libanaises qui ont accueilli des contributions d'auteurs syriens au tout début de la révolution syrienne, surtout en 2012-2013, grâce à des revues culturelles libanaises indépendantes qui avaient pris fait et cause pour l'opposition syrienne. Quant à Yassine Al-Hajj Saleh, lui, il est parti en Turquie.
D'accord.
Il est parti en Turquie, où il a d'ailleurs justement développé la revue avec d'autres camarades, avec d'autres opposants syriens en Turquie. D'ailleurs, à un moment, la Turquie est devenue le lieu véritablement de rencontre, en fait, de ces opposants liés par cette revue, par la création de cette revue. Il y a eu presque une institutionnalisation de la revue à partir de la Turquie, à partir d'Istanbul, où se retrouvaient de nombreux opposants syriens. Mais à partir du coup d'État de 2016 en Turquie, la répression s'est accentuée, l'atmosphère politique s'est durcie en Syrie, et donc beaucoup de ces contributeurs de la revue, de ces participants à cette revue, sont partis. Ils sont partis en Allemagne, d'ailleurs Yassine Al-Hajj Saleh est parti en Allemagne, et d'autres sont allés en France aussi, donc plusieurs d'ailleurs rédacteurs de cette revue se retrouvent à Paris ou en France de façon générale, et donc c'est devenu finalement une revue transnationale, si on peut dire, avec pour slogan, pour mot d'ordre, la Syrie dans le monde et le monde dans la Syrie. Donc, c'est-à-dire, c'est une revue qui à la fois s'occupe de ce qui se passe en Syrie, essaye de faire un journalisme d'investigation avec des relais syriens en Syrie même, mais également est aussi un relais pour la pensée critique internationale, et notamment par le biais de la traduction. Et c'est ça qui est l'intérêt aussi de cette revue.
Avec le choix des mots aussi, qui, j'imagine, peut faire débat, ou je vous pose la question, Franck Mermier, est-ce que le choix des mots fait beaucoup débat dans cette revue? Par exemple, le titre de la revue, Al-Jumhuriya, qui veut dire République, c'est lui, Yassine Al-Hajj-Saleh, qui a choisi le titre de cette revue, c'est lui qui a théorisé la République, le républicanisme en Syrie. Est-ce que ça crée des discussions?
Le rédacteur en chef de la revue, c'est Karam Nachar, parce qu'en fait, Yassine Al-Hajj-Saleh, c'était l'inspirateur. Mais pour ce qui concerne aussi le travail rédactionnel, il y a d'autres participants très importants, comme Karam Nachar, qui est aussi un intellectuel, qui vit... jusqu'à très peu, qui vivait à Istanbul, et qui s'est inspiré, par exemple, du républicanisme d'un philosophe américain, Philippe Petit, donc qui parle de république comme lieu, espace de délibération où le public doit participer. Et en fait, c'est un petit peu ça qui est à l'origine de la revue, c'est l'idée d'ouvrir l'espace public, la sphère publique syrienne, à de nouvelles voix, aux jeunes, aux femmes, à tous ceux qui n'avaient pas, en fait, accès à l'expression, parce qu'il faut savoir qu'évidemment, avant 2011, la sphère publique syrienne était extrêmement limitée et contrôlée par le régime. Donc, il n'y avait pas d'espace de liberté pour l'expression. Et donc, Al-Jumhuriya, la République, est devenue en fait une tribune pour ces nouvelles voix, ces nouvelles plumes, et notamment de la part de jeunes qui ont exploré aussi de nouvelles voix pour créer également, soit au niveau littéraire, soit au niveau aussi de niveau de l'essai politique ou culturel.
Vous en avez publié d'ailleurs quelques-uns dans votre ouvrage « Écrit libre de Syrie », Franck Mermier. « De la révolution à la guerre », c'était le sous-titre paru en 2018 aux éditions classiques Garnier. Quelles écritures nouvelles vous avez vues émerger pendant cette période-là?
Alors, il y a déjà un romancier syrien, enfin disons un intellectuel syrien plutôt, Hassan Abbas, qui avait noté déjà que entre 2011 et 2018, le nombre de romans publiés, pas en Syrie, mais disons écrits par des Syriens, était beaucoup plus important, ce nombre, que ce qui était publié avant 2011, c'est-à-dire à l'époque de Bachar al-Assad ou de Hafez al-Assad. C'est-à-dire qu'il y a eu un accroissement du roman, de la fiction, mais aussi de la littérature de témoignage. Il y a eu énormément d'ouvrages ou de textes écrits par des différentes personnes qui n'étaient pas des écrivains professionnels, qui n'étaient pas même dans le domaine culturel, mais qui ont souhaité rendre compte de leur expérience, parce que justement, cette expérience, elle était totalement inédite, affreuse aussi, tragique, et en même temps, il a fallu aussi donner du sens à tout ce qui se passait, ce que Yassine Al-Hajj-Saleh a appelé le temps des monstres, c'est-à-dire de l'ogre, s'inspirant de Gramsci, hein, de ce qui est apparu, cette monstruosité en fait de la répression syrienne. Donc il a fallu donner du sens, et c'est pour cela que beaucoup ont recouru à l'écriture, et aussi pour ce qui fait que finalement les Syriens qui ne se connaissaient pas vraiment eux-mêmes avant 2011. D'ailleurs, Yassine Al-Hajj-Saleh avait dit dans un de ses textes, si on avait eu quelques ouvrages écrits par des Syriens avant 2011 sur la société syrienne, on aurait pu peut-être se rendre compte de sa diversité, de ses réalités. Et en fait, c'est finalement ce qui est advenu après 2011, cette espèce de champ qui s'est ouvert de la création et aussi de la pensée critique, et également d'une espèce d'investigation presque entre anthropologique sur la société elle-même.
Avec un vrai foisonnement pour la presse imprimée, on comptait plus de 300 quotidiens hebdomadaires, bimensuels et mensuels créés à partir de 2011. Alors certains ont des financements étrangers du Qatar, par exemple. C'est pas le cas de la revue Al-Jumhuriya, voilà, qui n'a pas accepté de financement étranger, qui a été financé quoi par des financements très précaires.
Alors ils ont été financés justement par tout à l'heure Léo Fourne parlait de Ayman Asfari, cet homme d'affaires syro britannique qui dirige ou qui, disons, a financé Madaniya, cette organisation civile. Ayman Asfari a dans les premiers temps aussi contribué à travers sa fondation. Il y a eu aussi d'autres fondations européennes qui ont contribué, mais effectivement, la revue a toujours essayé d'être indépendante par rapport à ses financiers, et notamment se place dans d'un autre bord que toutes les revues ou institutions culturelles qui ont été financées syriennes. syriennes qui ont été financées par le régime du Qatar.
Alors c'est une revue en ligne pour beaucoup, Franck Mermier. Donc est-ce que vous avez pu voir ce qui a été produit ou pas, sauf si tout le monde a mieux à faire en ce moment, mais écrit depuis la chute de Bachar al-Assad et l'arrivée de Hayat Tahrir al-Sham au pouvoir?
Alors effectivement, c'est une revue en ligne, donc qui est accessible par tout le monde. Il y a même une édition en anglais, une fois par mois, je crois, ou une fois tous les 15 jours. Mais ce qui est très intéressant, ce qui est surprenant, c'est la plupart des rédacteurs, enfin, disons, certains rédacteurs utilisaient des pseudonymes lorsqu'ils écrivaient pour justement pas mettre en danger leur famille restée au pays qui pouvait subir la répression du régime. Et donc, là, tout d'un coup, il y a eu une espèce on a jeté les masques, si on peut dire, et on a retrouvé les identités premières. Et donc, ça a été aussi un moyen d'affirmer qui on était par l'intermédiaire de la revue. C'est-à-dire qu'on a proclamé justement la fin du pseudonyme et le retour à l'identité, et ce qui est un petit peu assez métaphorique en fait de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, qui revient finalement à sa réalité propre et qui n'a plus finalement le masque jeté par le régime lui-même sur la société.
Enlever le masque, c'est un geste de défi aux partisans du régime, y compris dans ses cercles proches, dans sa propre famille. Ça, c'est l'objet d'une autre tribune que vous aviez écrite récemment dans Le Monde, pas seulement pour les rédacteurs de cette revue, mais pour tous les Syriens qui vivaient sous pseudo. En fait, ils sont très nombreux.
Oui. Il y avait beaucoup de Syriens qui vivaient sous pseudonyme, surtout ceux qui étaient engagés dans les domaines du journalisme, de l'écriture, mais aussi, par exemple, pour certains traducteurs qui n'avaient pas osé donner leur nom lorsqu'ils avaient traduit des ouvrages qui étaient liés à la Syrie, comme par exemple l'ouvrage de Michel Sora, L'État de Barbarie. Le nom du traducteur en arabe était resté secret, c'était un Syrien, et donc il a pu le dire récemment. Et pour d'autres aussi, cela s'est passé, c'est-à-dire que il y a eu tout un pan de la production culturelle syrienne qui finalement était restée clandestine, même à l'étranger, du fait qu'il fallait adopter un pseudonyme.
Et alors pour conclure, Franck Mermier, beaucoup de questions en suspens, mais que va devenir cette dynamique littéraire syrienne? Est-ce que les contributeurs d'Al-Jumouria vont tous rentrer en Syrie, trouver des relais? Comment cette littérature peut se faire une place dans la Syrie de demain et la conserver, cette place?
Alors, durant la guerre civile, il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup des maisons d'édition qui ont fermé, de librairies qui ont fermé, etc. Il faut aujourd'hui penser que de nombreuses institutions culturelles vont maintenant s'installer plutôt en Syrie, et elles auront été créées par la diaspora, et donc cela fait faire un lien entre la diaspora et la Syrie de l'intérieur.
Vous êtes rattrapé sur guerre civile, puisque au sein aussi de cette revue Al-Jamira, il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'il faut employer le terme de guerre civile concernant une guerre qui a été menée aussi par surtout une révolution en fait contre un régime en place. Merci beaucoup, Franck Mermier. Écrit libre de Syrie, de la révolution à la guerre, est paru en 2018 aux éditions Classique Garnier. On a très peu de temps, Leïla Vignal, mais en quelques secondes, comment HTS voit arriver cette diaspora qui rentre de Syrie? Est-ce que, au-delà des mots, elle peut vraiment, ça nécessite aussi de revoir ses propres valeurs à HTS de voir arriver cette diaspora?
Alors, je ne sais pas ce que HTS pense de la diaspora, mais en tout cas, les Syriens de l'extérieur ne se sont pas sentis coupés de la Syrie de l'intérieur. On le voit bien, qui va rentrer, qui ne va pas rentrer, tout le monde ne va pas rentrer, mais en tout cas, les ancrages avec le monde existent. Cette Syrie dans le monde, qui fait partie du sous-titre de la revue Al-Jumouria, le dit bien. Et cette Syrie dans le monde existe, et tous ces ancrages syriens qui vont se pérenniser via l'installation pérenne d'une partie de cette diaspora vont contribuer à renouveler aussi le dialogue, les compétences, les approches, les exigences, les attentes de la société de la Syrie de demain.
Merci beaucoup Leïla Vignal et merci Léo Fourne d'avoir été avec nous pour cette émission sur les diasporas syriennes.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et la presse étrangère revient elle aussi sur la mort de Jean-Marie Le Pen.
Avec un regard beaucoup plus critique et factuel que certains médias français qui préfèrent parler de simples outrances et polémiques de l'ancien leader d'extrême droite, en employant aussi son surnom affectueux, le menhir, pour rappeler les origines bretonnes de Jean-Marie Le Pen. Le journal suisse Le Temps remarque l'embarras des journalistes français, car il est mal vu de dire du mal des morts, mais aussi en raison de la droitisation de certains titres de l'Hexagone. Certains devront jongler avec les mots pour ne pas être trop durs sûr, explique Le Temps, alors que le RN est plus proche du pouvoir que jamais. Le Matin d'Algérie et Die Zeit en Allemagne se souviennent notamment de Jean-Marie Le Pen pour avoir justifié son usage de la torture pendant la guerre d'Algérie contre les partisans du FLN. Sa disparition ne nous inspire ni larmes, ni hommage, ni éloge, écrit Joël Mesquins dans son édito pour le journal belge Le Soir. De Jean-Marie Le Pen, on retiendra à jamais les odieuses saillies racistes et antisémites qui ont nourri son fonds de commerce pendant des décennies, écrit la journaliste belge. Les chambres à gaz ramenées à un détail de l'histoire, comme le dénonce aussi le journal espagnol ABC. Il a brandi le spectre d'un nouveau fascisme en fustigeant, énumère le New York Times, les juifs, les arabes, les musulmans, les autres immigrés, tous ceux qu'il considérait comme n'étant pas de purs français. D'autres ignominies ont valu à Jean-Marie Le Pen de multiples condamnations pour provocation à la haine, apologie de crimes de guerre, contestation de crimes contre l'humanité, rappelle le quotidien Le Soir, et de souligner que c'est le rejet de l'autre qui a hissé le Front National, cofondé par Jean-Marie Le Pen en 72, au second tour de la présidentielle de 2002. Et c'est toujours le rejet de l'autre qui nourrit le Rassemblement National d'aujourd'hui, écrit le journal belge. Opinion controversée, tempère le quotidien Magyar Nemzet en Hongrie, journal qui fait l'impasse d'ailleurs sur les propos racistes et antisémites de Jean-Marie Le Pen pour relayer notamment les hommages rendus par le RN via Jordan Bardella, Sébastien Chenu ou encore le tweet d'Éric Zemmour.
Les dernières années de sa vie furent marquées par le parricide de sa fille Marine Le Pen.
C'est l'analyse du quotidien italien conservateur Il Giornale. Regarder son héritage en face est indispensable à l'heure où le RN se rapproche du pouvoir, souligne Richard Verli dans les colonnes du journal suisse Blick. La Suisse d'ailleurs où Jean-Marie Le Pen entretenait des relations d'affaires qui l'aidèrent tout au long de sa carrière, écrit le journaliste suisse. Il aimait mettre en exergue ce qui lui convenait comme le refus de la Suisse d'intégrer l'Union européenne. Jean-Marie Le Pen détestait la République que la France est devenue, écrit en encore Richard Verli, et c'est ce que confirme le Guardian, journal de gauche britannique, pour qui Jean-Marie Le Pen a réussi en France non seulement à fédérer skinheads et membres de la haute bourgeoisie, ouvriers au chômage dans le Nord et viticulteurs aisés du Midi à l'échelle nationale, il a réussi à faire glisser le discours conservateur vers l'extrême droite. Et pour le journal suisse Blick, sa fille Marine Le Pen a su, elle, avec succès, passer de l'extrême droite vociférante à une droite nationale, populiste, normalisée, qui partout tout en Europe, a aujourd'hui le vent en poupe.
Vous avez relevé aussi dans la presse ivoirienne, Catherine Dutu, des inquiétudes autour d'un bateau qui transporte 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium.
Le Zimrida, battant pavillon de la Barbade, stationné depuis quelques jours dans la rade extérieure du port d'Abidjan par crainte d'une avarie, explique le journal ivoirien Fraternité Matin. Mais ce bateau ne présente finalement aucun danger, assurent les autorités du port d'Abidjan. Pourtant, des questions et des hantises demeurent, rapporte Connexion ivoirienne. Cette affaire fait d'ailleurs la une du quotidien Le Nouveau Réveil, car du nitrate d'ammonium avait provoqué l'explosion catastrophique dans le port de Beyrouth, on s'en souvient. C'était il y a 4 ans, comme le rappelle aussi Jeune Afrique et la BBC. Les Ivoiriens gardent surtout en mémoire le souvenir douloureux du Probo Koala. En août 2006, ce vieux tanker avait déchargé dans le port d'Abidjan des tonnes de résidus toxiques. Traumatisme encore en mémoire de la Deutsche Welle.
20 000 tonnes, c'est l'équivalent de 400 camions de 50 tonnes. Donc à quel moment la totalité de la marchandise a été contrôlée? D'autant plus qu'il y a du carburant qui a touché une partie des sacs qui ont été évidemment évacués, mais le carburant rend encore plus instable ce type de produit. J'estime que dans le doute, on aurait dû s'abstenir. Malte a carrément refusé, et la Lituanie pareil, et d'autres pays. Non, j'estime que c'est un risque à ne pas prendre.
Cette même cargaison avait vu 300 tonnes potentiellement explosives être déversées dans la mer du Nord, rappelle la BBC. Et une fois que ce navire, le Zimrida, aura quitté la Côte d'Ivoire, il livrera le reste de sa cargaison en Angola et en Tanzanie.
Merci Catherine Dutu. Dans un instant, les Midi de Culture.